Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les jours de la semaine, très tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France ou l'écoute en ligne en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Tous les mercredis, un coup de cœur pour un film qui sort ou qui ressort au cinéma.
Je ne crois plus à l'impartialité. À l'objectivité. Je crois à la partialité. On peut penser à un cinéma qui n'est pas un cinéma de grand spectacle. Comme on peut penser à des livres qui sont des livres qui se vendent à quelques milliers d'exemplaires et qui ont une énorme influence, vous voyez.
On reconnaît la musique, bien sûr. On reconnaît surtout la voix de Marguerite Duras en 1975 à la sortie de son film India Song. Et on peut, à partir d'aujourd'hui, voir la version restaurée de ce film culte de Marguerite Duras, soit sur grand écran, dans les salles de cinéma donc, soit chez soi, en DVD, puisque c'est une sortie simultanée. Alyssa Vance, l'auteur, chanteuse Alyssa Vance, scénariste et écrivaine par ailleurs, qui enseigne l'histoire du cinéma dans les lycées ou les techniques de scénario, a écrit une passionnante analyse du film India Song, publiée par le site Criticart, si bien qu'elle est ce matin l'invitée du Réveil culturel. Bonjour Alyssa Vance.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
J'écoute India Song. Je suis venu aux Indes à cause d'India Song. Cet air me donne envie d'aimer. Jamais aimé. Je n'avais encore jamais aimé.
Michael Lonsdale, autre voix reconnaissable, une manière aussi de lui rendre hommage. La voix reconnaissable de Lonsdale, de Delphine Sering, de Marguerite Duras, India Song, donc, qui ressort au cinéma, mais aussi en DVD chez Tamassa à partir d'aujourd'hui. Et vous, Alyssa Vance, pour vous, India Song n'est que musique. Et vous avez raison de le dire, parce que la musique de Carlos D'Alessio, la chanson de Jeanne Moreau, sont intimement liées comme à ce film, India Song. Et donc vous écrivez, Alyssa Vance, India Song n'est que musique, à la fois oubli du temps et reconstruction d'une temporalité nouvelle, lancinante, éminemment subjective, où les heures semblent plus pouvoir se compter en minutes, ni les minutes en secondes.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que le mouvement de ce film India Song est un mouvement qui est tout sauf rationnel. C'est un mouvement qui obéit à la mémoire, à la musique, à quelque chose d'extrêmement affectif. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, ce film opère une sorte de charme, d'envoûtement et peut séduire de façon très très intime, très forte. Pour moi, effectivement, le film entier est une musique. C'est-à-dire que c'est effectivement la musique de Carlos D'Alessio qui est primordiale, mais tout le reste obéit à une forme musicale. D'abord parce que ce sont des voix qui racontent l'histoire, des voix venues dont on ne sait pas très bien où, qui vont raconter comme ça cette histoire.
Cette histoire, justement, Alyssa Vance.
D'Anne-Marie Stretter, oui.
Donc, oui, alors, la femme de l'ambassadeur et le vice-consul réunis le temps d'une soirée à l'ambassade de France à Calcutta, c'est une rencontre qui se raconte au passé quand tout est passé, le désir, la vie, les souvenirs. Mais comment vous résumeriez-vous l'histoire de India Song?
Oh, ça c'est une question très compliquée. Je crois que ça peut se résumer par des mots, par des sensations. C'est l'histoire de Calcutta, c'est l'histoire de l'ambassade de France, c'est l'histoire d'une femme qui est une femme d'ambassadeur, qui s'appelle Anne-Marie Streeter, qui est entre différents hommes, différents amants, dont Michael Richardson, qui est son grand amour, et puis qui va être abordé par un homme qui est interprété donc par Michael Lonsdale, qui est le vice-consul, et qui est un homme qui va lui déclarer son amour impossible, son désir impossible, et qui va, le temps d'une soirée, d'une réception à l'ambassade, hurler cet amour sous le nom de cette femme, c'est-à-dire ce nom qui est Anna Maria Guardi, qui est son nom de jeune fille, son nom de Venise, son premier nom, et il va hurler ce nom en disant qu'il veut qu'on le sache, au moins qu'on peut crier un amour. Mais quand je résume le film comme ça, ce qui me saute surtout aux oreilles, c'est que ce sont des sensations. C'est l'ouïe, ce cri, cette musique. C'est la chaleur, parce qu'on est à Calcutta, qu'il fait une chaleur épouvantable. C'est l'odeur de la lèpre que Duras décrit comme une odeur de fleurs et qui est tellement tellement forte qu'elle envahit comme ça tout et qu'elle fait ressentir, deviner l'horreur, la misère qu'on ne voit pas, qui est hors champ. Voilà, c'est un film qui est un film sensoriel. Je crois qu'on ne peut pas vraiment le résumer de façon narrative parce qu'il n'obéit pas à une logique narrative classique. Il obéit vraiment à une recherche sensuelle, une recherche sensorielle extrêmement puissante.
Quand le film est sorti en 1975, vous n'étiez pas né, Alissa.
Non, je n'étais pas né.
Puisque vous allez naître plus de 10 ans après la sortie de ce film. Comment vous l'avez vu, ce film? Dans quelles conditions? Comment vous avez fait la rencontre avec India Song?
Alors moi...
C'est par la littérature, je
suppose. C'est une question un peu personnelle. J'ai une histoire assez particulière avec ce film, puisqu'en fait, c'est un film que j'ai vu pendant l'enfance. J'ai été biberonnée à India Song, ce qui est un peu surprenant. Je pense que c'est une éducation étonnante. Mais il se trouve que...
Vos parents?
J'ai un prénom qui vient de Duras, qui vient de Détruire, dit-elle, qui est un roman et un film de Duras, avec une héroïne qui s'appelle Alissa. Et donc, j'ai une histoire effectivement personnelle assez forte avec Duras en général et avec India Song en particulier, qui explique que, sans doute que je me sois tournée à la fois vers la littérature comme écrivaine et à la fois vers la musique comme chanteuse, parce que pour moi, Duras c'est tout cela à la fois. Quoi. C'est un rapport à la littérature qui est éminemment musical et au cinéma qui est éminemment musical, et elle est vraiment à la croisée des chemins entre la musique, la littérature et le cinéma.
Ça c'est pour Marguerite Duras, oui. Votre histoire avec India Song, la première vision de ce film.
La première vision de ce film est une sorte de fascination matinée d'incompréhension, je crois, mais qui n'empêche pas la fascination et qui n'empêche pas l'amour non plus. Je suis pas persuadée qu'il faille forcément tout comprendre pour aimer quelque chose, ni pour aimer quelqu'un d'ailleurs. Et en tout cas, oui, je pense que j'ai très vite été happée par la beauté de cette femme qui est filmée d'abord, Delphine Seyrig, et puis de ses plans. C'est un film qui est quand même d'une audace formelle incroyable, puisqu'on a, je crois, 74 plans en tout, ce qui est très très peu. C'est-à-dire que chaque plan dure plus d'une minute, une minute ou deux, et donc on a comme ça des plans extrêmement longs, qui accordent une importance incroyable au décor, aux objets, et cette musique qui va tout emporter, qui va déferler sur l'ensemble du film. Duras disait une chose très belle, je crois, à propos d'India Song, qui est que c'était une sorte de revanche de la musique sur le cinéma, la musique ayant été maltraitée par le cinéma pendant des décennies, et là tout à coup elle prend sa revanche, et je crois que c'est assez juste, c'est-à-dire que en fait au cinéma généralement l'image est primordiale, le son vient après, le son est subordonné à l'image, on suit d'abord l'image du film, puis on entend des voix qui en général correspondent à ce qu'on voit à l'écran, et donc dans la pensée du film c'est d'abord l'image, et India Song c'est l'inverse, dans la pensée du film c'est d'abord le son. C'est d'abord ce que vont raconter ces voix, ce que va raconter cette musique de Carlos D'Alessio, et d'une certaine façon l'image intervient presque après. En tout cas, il y a pas d'hiérarchie.
C'est le moment d'intervenir et de dire que si India Song est vraiment un film qui prolonge l'acte littéraire de Marguerite Duras, je dois le rappeler parce qu'on est sur France Culture, que c'est aussi un film imaginé à la radio, partie d'une expérience radio, parce que Marguerite Duras était très amie avec Alain Truta, qui était alors responsable des émissions dramatiques sur France Culture et le créateur des ateliers de création radiophonique. Et c'est lui qui propose à Marguerite Duras de venir à la radio et d'essayer d'imaginer à partir d'un de ses romans, Le Vice-Consul, une émission de radio. Et c'est à partir de cette bande-son, à partir de cette émission de radio, que Marguerite Duras va imaginer le film India Song.
Tout à fait. Et c'était conjointement un travail théâtral aussi qu'elle a écrit, mais qui n'a pas abouti sous forme théâtrale, puisque c'était une commande de Londres, de Peter Hall, du National Theatre à Londres, qui devait ouvrir et qui voulait monter cette pièce qu'elle a écrite, qui a été publiée chez Gallimard en 73. Et finalement, le National Theatre a pris du retard, donc ça n'a pas été monté sur scène, mais elle a fait cette pièce radiophonique, puis ce film, et une version qui est devenue cinéma. Oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les personnages, on entend les voix, ce n'est jamais synchrone. Alice Evans.
Effectivement, ça, c'est quand même la grande trouvaille de ce film, c'est que les comédiens restent bouche fermée, lèvres closes, tout au long du film, et on entend leurs paroles, leurs dialogues avec leur voix, mais jamais ils ne bougent les lèvres pour dire ces mots. Et c'est absolument, je trouve que c'est un effet saisissant, parce que ils sont présents sans être présents, ils sont présents et absents, ils traversent le film sans jamais ouvrir la bouche, ils deviennent des sortes de fantômes, c'est-à-dire que ce choix tout à coup inscrit le film dans une temporalité très particulière. On a l'impression qu'ils sont déjà morts au moment où le film commence, qu'ils sont des sortes de fantômes comme ça qui errent sous nos yeux et dont on entend des paroles qui sont un petit peu... Moi, ça me fait penser à ce poème de Verlaine, vous savez, mon rêve familier qui dit l'inflexion des voix chères qui se sont tues. C'est un petit peu ça, c'est des voix qui se sont tues et qu'on entend comme ça par bribes, par réminiscence, mais qui semblent déjà envolées, déjà lointaines.
Écoutez, Alice Evans, ce que disait à ce propos de l'utilisation des voix, de cette technique, Marguerite Duras, à la sortie du film, en 1975.
Et j'ai trouvé ça, ces bouches fermées, tandis qu'ils écoutent leurs propres paroles. Et quand j'ai vu le film en rush, j'étais complètement convaincue. Il n'y a pas de confusion possible. Ils sont supposés avoir dit ça, c'est très loin. Tandis qu'ils vivaient, enfin qu'ils n'étaient pas encore engloutis dans la mort, des choses comme ça ont été dites. C'est tout ce qu'on peut dire, ce que je sais.
Voilà Marguerite Duras parlant d'India Song. Et dans votre article, dans votre analyse, Alice Evans, vous dites que ce dispositif permet justement de parler du désir, non pas comme une finalité, c'est-à-dire comment atteindre le désir, comment vivre le désir, mais au contraire, que ce dispositif permet de parler du désir dans une manière plutôt intellectuelle que charnelle.
Effectivement, je crois que Duras disait à propos, parce que le personnage qui incarne ce désir, c'est le vice-consul, hein, c'est Michael Lonsdale, qui est éperdument amoureux de d'Anne-Marie Streeter, de Delphine Seyrig. Et je crois qu'elle disait que ce n'était pas physique, que l'acte physique n'aurait pas de sens. On était au-delà de ça. Et en effet, dans ce désir qu'il exprime, il y a l'idée que... D'une certaine façon, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'objectif. C'est un désir qui n'est pas défini comme un manque, comme un vide, comme la recherche de quelque chose d'autre. C'est une forme pleine. Il est là. C'est un être là du désir et qui est en même temps complètement désespéré. C'est quand même un film qui raconte une forme d'impasse. Et la seule issue possible de ce désir, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la rencontre charnelle. C'est le cri. C'est le cri de douleur, qui est une sorte d'incarnation de la douleur, l'incarnation du désir comme douleur.
Ce serait donc ça le résumé pour vous d'India Song?
En tout cas, le cœur, j'ai l'impression, autour de cet ensemble séquence centrale du film, qui sont la déclaration du vice-consul à Anne-Marie Streeter, puis cette séquence de cris qui a lieu hors champ, où on entend au loin le vice-consul crier son amour à Anne-Marie Streeter. Et oui, je pense que c'est un film dont le cœur intime est très lié à la question du désir et à la façon dont il le définit. C'est lié à une certaine description du désespoir. Ce qui est très beau, c'est que on dit, je crois, à propos d'Anne-Marie Streeter, c'est dans le texte aussi qui est publié, le texte de théâtre, qu'Anne-Marie Streeter est prisonnière d'une sorte de souffrance, mais très ancienne, trop ancienne encore pour l'attrister. C'est-à-dire que la souffrance est tellement ancienne que ce n'est plus de la tristesse. C'est quelque chose qui emprisonne, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la tristesse, c'est plutôt une sorte d'empêchement, d'impasse profonde, hein, métaphysique. Et je crois que le film décrit ça assez précisément. Duras disait aussi, je crois que son personnage d'Anne-Marie Streeter était une sorte de messagère de l'invivable, qu'elle racontait l'invivable, qu'elle portait ça. Et c'est ça que raconte aussi ce film, cette impossibilité à vivre, cette difficulté, cette impossibilité.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps de de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue.
La chanson d'India Song, bien sûr, par Jeanne Moreau. C'est un film surréaliste pour vous, Alissa Vance. Vous posez cette question dans votre longue analyse consacrée au film de Marguerite Duras. Vous dites que l'approche éminemment poétique est proche de ce que cherchait, par exemple, André Breton lorsqu'il évoquait le point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et l'avenir, le haut et le bas, le communicable et l'incommunicable cesseront d'être perçus contradictoirement.
Non, c'est pas un film surréaliste, historiquement, esthétiquement, je pense que ce serait erroné de dire ça, mais en revanche, je trouve qu'il y a une passerelle qu'on peut trouver dans cet art de la contradiction, on pourrait dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que India Song unifie en effet un certain nombre de contraires, réconcilie le présent, le passé, la vie, la mort, et quelque chose de cet ordre-là, d'une totalité qui est proposée. Et Anne-Marie Streeter dit à un moment donné du film, ce n'est rien de vivre aux Indes, ce n'est ni pénible, ni agréable, ni facile, ni difficile.
Ce n'est rien,
vous voyez rien. Ouais. Et en même temps, ce n'est rien et c'est tout. C'est-à-dire que c'est à la fois, finalement, on pourrait prendre le contre-pied de ça et se dire que vivre aux Indes, c'est aussi tout ça à la fois. C'est à la fois pénible et agréable, facile et difficile. C'est cette sorte de...
Et c'est pas en Inde, c'est aux Indes.
Aux Indes.
Donc ce sont des lieux inventés.
Ce sont des lieux inventés, et effectivement c'est aux Indes, et c'est un rapport au lieu qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que tout est tourné à Boulogne, en gros. À Boulogne, au château Rothschild essentiellement, un peu rue Cortambert, tout est tourné en France. Et ça c'est magnifique, et Duras disait qu'effectivement on n'avait pas besoin d'aller à Calcutta, que tout était ici. Que le voyage était intérieur, mental, et ça c'est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on voit India Song, cette confusion des espaces qui est magnifique parce qu'elle est métaphysique, c'est que on ne raconte pas vraiment Calcutta, on raconte une sensation de Calcutta, on raconte un voyage intérieur et une sorte d'impasse existentielle et de désir qui sont des choses universelles et qu'on n'a pas besoin de rendre par une reconstitution. Pour Marguerite Duras, la reconstitution, ce serait terrible. C'est là, le film est tout sauf une reconstitution, que ce soit sur le plan temporel ou géographique.
Sous le signe de Marguerite Duras, c'est le moins que l'on puisse dire, Alissa Vance, vous venez de publier votre premier roman, A trop aimer, où vous revenez sur les violences dans un couple à partir de choses vécues. Quand vous dites que Marguerite Duras est toujours là avec moi, par exemple, Comment elle vous a accompagné dans cette aventure littéraire?
Eh bien, par exemple, il y a une chose très importante dans India Song et puis dans l'œuvre de Duras en général, c'est la notion de cri, ce que le cri révèle. Et par exemple, dans mon roman A trop aimé, le coup de foudre entre les deux personnages commence sous le signe de Duras, puisqu'en fait, la narratrice se sent tout à coup merveilleusement comprise par cet homme qu'elle rencontre et qui l'entend. Et elle a une réminiscence, elle pense à cette phrase « J'aimerais celui qui entendra que je crie ». Elle se dit que cet homme l'a comprise, a entendu qu'elle criait, a entendu son cri intérieur, son désir intérieur. Et ça, c'est une phrase durassienne, c'est une phrase qui est une réminiscence. La phrase précise de Duras, c'est « J'aimerais quiconque entendra que je crie ». Ça vient vraiment de Duras et c'est cette phrase qui tout à coup va la faire tomber dans cette histoire d'amour fou qui va peu à peu se transformer en histoire d'emprise et en histoire destructrice que je raconte dans ce roman.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
45 ans après sa sortie, on peut revoir dans une version restaurée impeccable India Song de Marguerite Duras, soit au cinéma, soit en DVD, soit en Blu-ray chez Tamassa. Merci beaucoup Alissa Vance d'être venue nous en parler.
Merci.
Et je rappelle aussi le titre de votre premier livre paru chez De Noël, A trop aimé. Merci.
Merci.
Corinne Amar était à la coordination de cette émission, émission réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Dofar Guérite. On se retrouve demain à la même heure. Passez une bonne journée sur France Culture.